du roman d'aventure. Et on va s'intéresser évidemment à des univers assez différents, assez variés, même si l'objectif à chaque fois, c'est de vous emmener, c'est de vous prendre par la main et de vous emmener très vite, très loin. Moi, je voulais qu'on commence un peu pour peut-être fixer l'imaginaire de nos spectateurs en vous demandant aux uns et aux autres ce que vous pensez quand je vous dis le mot aventure. Je vais commencer par Jacques Ravenne et Eric Giacometti.
Vous reconnaissez tout de suite les francs-maçons, c'est-à-dire cette capacité à repasser le bébé. Non, l'aventure, pour moi, c'est tout ce qui est en dehors de ma vie quotidienne. Voilà, j'ai ma vie réelle, ma vie quotidienne. Et pour moi, l'aventure, c'est à un moment donné, j'ouvre une porte et ça donne sur autre chose. Ça peut être, ça peut aller de Dracula, Indiana Jones, en passant par James Bond ou par n'importe quelle figure de l'imaginaire. L'aventure, c'est autre. Je passe une porte et je suis hors de mon univers quotidien.
L'aventure, c'est tout ce qui est hors Eric Giacometti. Je passe une porte. J'en passe même deux quand il n'est pas là. Et il se passe quelque chose. Non, l'aventure, c'est peut-être la découverte du roman d'aventure. Et si on doit fixer une personnalité, un livre mythique, j'avoue, je dois être nettement plus âgé que mes amis, mais sans doute Alexandre Dumas, effectivement, Comte de Monte Cristo. Voilà. Non, mais dès que c'est aux francs-maçons, il ne marche plus. Ça marche pour les profanes. C'est un complot, ce truc-là.
Donc c'était le Comte de Monte Cristo, ouais, l'aventure. Ben oui, mais c'est normal, il n'y a que moi qui suis censé parler. Vous êtes tous venus pour m'écouter, moi, on est bien d'accord. Bon, voilà. Lionel, si je te dis le mot aventure.
L'aventure, c'est une promesse. On parlait de roman d'aventure, on en a parlé ces 4 jours. Moi, je trouve quand un auteur me dit, donc c'est après ce que j'essaye de faire, après qu'on doit transmettre, mais quand les premières émotions de lecture et qu'il y a un roman d'aventure, qu'un roman dit « je suis un roman d'aventure », ça veut dire que l'auteur me tend la main et me dit « viens, tu vas voir, on va vivre un truc et ça va être incroyable ». Et voilà, pour moi, c'est juste une promesse, un pacte entre l'auteur et le lecteur de « je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, de vivre quelque chose d'extraordinaire ».
Cédric ?
Pas mieux. Non. Non, l'aventure, c'est une promesse. C'est une promesse d'un voyage que... pour le coup, pour les romans que l'auteur fait au lecteur et qui, quand elle est remplie, voilà, embarque le lecteur dans un voyage qui le sort de sa réalité quotidienne, qui parfois lui montre des choses de lui-même, de la société autour de lui, mais qui au final est toujours basé sur le plaisir, ce fameux plaisir de justement partir vers quelque chose qu'on ne connaît pas.
Donc pendant cette heure, on va essayer de vous faire partir, justement. Alors, on ne vous promet pas qu'il y ait plus de soleil qu'ici, mais enfin, ça ne prend pas de risque en le disant non plus. Et on va essayer de voir un petit peu, justement, comment chacun de ces auteurs ici présents travaille cette manière de vous emmener au travers de leurs aventures. Moi, je voulais qu'on commence par votre personnage, Jacques et Eric. Ce flic, Antoine Marcas, finalement, quand je vous écoute parler tous les deux à la réponse sur l'aventure, je me dis qu'il... Il est votre parfait clone sur ce point-là à tous les deux. C'est-à-dire que vous prenez un homme lambda, pratiquement, même s'il est flic. En tout cas, il n'a pas forcément un caractère très aventureux à la base. Mais vous allez le trimballer à peu près partout et l'emmener dans des situations que même son métier de flic, peut-être, ne l'aurait pas amené à côtoyer.
Je pense qu'il marche, si ça ne vous dérange pas. Merci.
Il marche très bien celui-là.
Le problème d'Antoine. Non, mais il marche quand c'est toi. C'est ça. Le problème d'Antoine Marcas, c'est d'avoir nous comme papa. C'est ça le drame de sa vie, en fait. Il était tranquille, dans son petit coin. Voilà. Et à un certain moment, il a eu deux auteurs qui l'ont créé et qui lui ont donné une vie aventureuse à laquelle je ne suis pas tout à fait sûr qu'il était fait pour parce qu'il était déjà.
Ça se
flic.
Sent parfois. Hein.
Ouais, ça se sent. Il était déjà flic et franc-maçon, ce qui est un peu lourd pour un seul homme, il faut l'avouer. Je ne sais pas ce qui est le plus lourd, si c'est le fait d'être un commissaire de police ou si c'est le fait d'être initié. Mais déjà, il en avait beaucoup. Il avait une ex-femme, il avait un fils. Et puis, malencontreusement, il nous a rencontrés. Et là, ce n'est pas l'aventure qui a commencé. C'est, à mon avis, le synonyme absolu de l'aventure. C'est le mot emmerdement.
Non, en fait, c'est vieux comme la naissance de la littérature. C'est des aventures extraordinaires qui arrivent à un personnage ordinaire. Et ce qui est intéressant, c'est voir ce personnage ordinaire qui est un peu comme monsieur et madame tout le monde, comment il va se comporter dans une situation qui, bien évidemment, est extraordinaire. Si on cherchait des modèles, moi j'ai été extrêmement marqué par John Buchan, qui est un auteur qui est peu connu maintenant, mais qui a été le papa des 39 marches, qui est un des classiques. Et il a un personnage qui s'appelle Richard Hannay, c'est-à-dire un type qui est dans cette Angleterre du début du XXe siècle, qui se retrouve mêlé à des histoires, à des complots, des choses comme ça. Il essaye de garder ses valeurs et il a énormément d'emmerdements. Et à travers ses aventures, on essaie de décrypter la société de l'époque. Et ça, je trouvais ça assez finement joué dans la mesure où le Vecteur, à la base, c'était un ouvrage de divertissement populaire. Et nous, c'est ce qu'on fait. On fait de la littérature, on ose le dire, qui est populaire, c'est du divertissement. On n'a pas la prétention d'avoir le Goncourt et de rester dans les annales. Mais en revanche, on veut faire passer un bon moment à nos lecteurs, à lui faire vivre exactement ce que me disait Lionel. Je te prends par la main, j'aime beaucoup cette expression, je te prends par la main, on te fait vivre une aventure. Et en te prenant vers la main, on te prend, tiens, tu vas aller en compagnie d'Antoine Marcas, ça peut être ton voisin de palier, presque. Bon, si ce n'est qu'il est plutôt beau gosse et on essaye quand même d'avoir un héros qui soit.
Surtout depuis pas mal. Un roman récent, il a en plus gagné en sex appeal et en pouvoir de
séduction. Oui, voilà, c'est ça, il a fallu en rajouter. Ça, c'est Jacques, c'est le franc-maçon qui est intervenu. Voilà.
Juste une chose, quand c'est un franc-maçon qui vous prend par la main, méfiez-vous.
Ah mais normalement, on le sait, non ? Il n'y a pas une poignée de main particulière ?
C'est pour ça qu'on nous appelle les frères la gratouille.
Lionel, quand j'entends Eric nous dire bah voilà, c'est un homme normal, et puis on l'emmène et on le confronte à des situations auxquelles il ne s'attend pas, et surtout qu'il l'emmène très loin. Je ne peux m'empêcher de penser à Michael Petersen, le héros de Léviathan, parce que c'est tout à fait ça. C'est vraiment l'exemple du type sans histoire, sans relief, un peu falot même quand on le rencontre au début. Et puis alors après, ça se gâte, les emmerdes quoi.
Bah, effectivement, quelque part c'est l'essence de l'aventure. Si un jour le type se dit tiens, je vais sauver le monde comme tous les matins, c'est sympa, il peut faire ça très bien, mais oui, Michael effectivement c'est un type parfaitement sans histoire, c'est un père de famille. Bon, il a quand même un peu une histoire, ses parents sont morts dans un naufrage quand il avait 7 ans. Il fait partie d'un des rares rescapés et il en a un peu gardé une faille puisque c'est un type qui étant extrêmement logique, tout en ayant gardé une phobie absolue de la mer, il peut pas monter sur un bateau sans avoir une peur panique, c'est impossible pour lui. Il est quand même devenu biologiste marin. Donc, il a un peu travaillé par ça. Et il reçoit, comme il est biologiste marin, on lui propose est-ce que malgré ça, tu veux partir en Antarctique étudier les baleines puisque c'est ton boulot. Et le type dit oui. Et il aurait jamais dû.
Il fait plus que dire oui. Il fait même carrément du lobbying presque pour obtenir le poste.
Oui, parce qu'il est, il est insatisfait. Il a, quelque part, il sent en lui une volonté d'aventure. C'est un père de famille très, très posé à Los Angeles, mais. Mais au bout d'un moment, sa vie ne lui suffit plus. Il ressent, comme je pense que ça peut nous arriver à beaucoup d'entre nous, à un moment, l'impression que sa vie est trop étriquée et qu'il a besoin de partir. Et donc, mais en un sens, il a demandé cette aventure. Par contre, là où il n'imaginait pas, c'est qu'il était au centre d'une machination et d'un complot dont il est à la fois la victime et la clé. Et il n'aurait jamais dû partir de chez lui.
Même pas de raccourci, rien. Mais bon, il va falloir qu'il convainque un monde incrédule qu'il n'est pas ce qu'il est. Cédric, même chose finalement chez toi. En plus, il y a deux aspects souvent dans tes romans, en particulier dans la série de thriller. C'est qu'on a le personnage du flic, Vauvert, ou celui d'Eva Zverta, mais on a aussi souvent un personnage qui se retrouve confronté à des situations, là encore, qui sortent de l'ordinaire et qui vont les confronter pas seulement à la réalité, parfois à des phénomènes aussi, mais ce sont pas forcément toujours des personnages qui sont prédestinés à se retrouver lancés dans l'aventure.
Non, mais c'est tout l'intérêt. Enfin, moi, ce qui m'intéresse dans les histoires, les bonnes histoires, celles qui nous font, comme je disais, qui nous amènent vers ailleurs, c'est que le lecteur puisse s'identifier à certains degrés aux personnages, hein, que ce soit des gens un peu comme nous, qui soient plongés du jour au lendemain dans des situations qui les dépassent totalement et qui les embarquent dans des aventures sans fin. Avec un danger toujours omniprésent, des découvertes merveilleuses.
C'est des personnages un peu qui contrôlent les choses dans leur vie.
Ça dépend.
Dans l'Enfant des cimetières, il y a un photographe, c'est plutôt lui qui finalement d'habitude décide un peu de ce qu'est la réalité au travers de ses clichés, avant de se retrouver lui-même embarqué dans l'affaire.
Ce qui m'intéresse, c'est souvent ça, c'est le glissement, le dérapage, le fait que un matin, notre vie peut nous échapper totalement et on peut se retrouver dans des situations qu'on ne maîtrise plus. Et alors, à ce moment-là, comment réagirions-nous si ces choses étaient possibles ? Parce que dans tous mes livres, en fait, on retrouve cette idée que les superstitions en fait sont réelles, hein, que la magie existe, que notre monde, on peut y trouver autre chose que la réalité communément admise. Et quand effectivement les portes s'ouvrent autour de nous et souvent le sol se dérobe sous nos pieds, comment font ces personnages pour surmonter ces épreuves? Et d'ailleurs, petit à petit, je me rends compte que je bâtis mes aventures sur des schémas de quêtes initiatiques où les personnages ont une série d'épreuves, d'obstacles à surmonter pour finalement devenir eux-mêmes et découvrir réellement le monde tel qu'il est autour d'eux.
Y compris Vauvert, qui est pourtant un flic un peu blasé, dont on a l'impression parfois qu'il a un peu tout vu, et qui finalement, là encore, se retrouve confronté à des choses...
Ah oui, il est particulier, ouais. Parce qu'en fait, c'est un commandant de police toulousain. Physiquement, c'est vraiment l'image du rugbyman avec des épaules larges, c'est un géant de 2 mètres, au visage buriné, qui s'est, un gros nounours en fait, qui s'est construit une armure autour de lui, qui est assez violent dans ses actions, dans sa manière de mener son métier, et qui paradoxalement a une sensibilité extrême, et cet homme est en réalité médium, donc il voit régulièrement des fantômes par exemple, et le destin le place dans des situations de conflit avec ses forces de l'autre monde, et Alexandre Vauvert donc refuse catégoriquement de voir le don qu'il a. C'est-à-dire il le sait, il s'en rend compte, mais pour lui c'est trop compliqué, donc il nie un petit peu au fond de lui ce pouvoir inné qu'il a. Sauf que forcément, comme je disais, le destin le ramène toujours dans ces situations-là, parce qu'il y a un but à cela.
Comme un peu Antoine Marcas, qui, flic et franc-maçon, a tendance quand même à se retrouver souvent chargé d'enquête, directement ou indirectement d'ailleurs, où justement la franc-maçonnerie intervient. C'est surprenant, non ?
Tout est maçonnique. Je vais vous faire le coup, pour ceux qui n'assistaient pas à la conférence d'hier. Vous savez quoi ? Ici, vous avez vu cette bouteille d'eau minérale ? Regardez bien, elle s'appelle comment ? Tu peux.
Acacia.
Acacia. Jacques. L'acacia est l'arbre des francs-maçons, c'est le symbole des francs-maçons, et on reconnaît certains francs-maçons dans la vie profane parce qu'ils portent une petite branche d'acacia dessus. Alors je tiens à préciser, si tu veux conserver ton emploi, que tu aurais intérêt à boire de l'acacia parce qu'on touche 10% chaque fois. Voilà.
C'est bon, on a tous commencé. Le seul qui n'a pas bu encore, c'est Eric.
Je sais. Je ne veux pas faire partie du complot. Non, en fait, oui. Nous, en fait, on a un héros flic franc-maçon et qui évolue dans un univers qui reprend toutes les grandes thématiques ésotériques qu'on a aimées quand on était môme. Les Templiers, les Rose-Croix, les alchimistes. C'est une sorte de, pour nous, c'est un patrimoine de l'imaginaire, l'ésotérisme. On peut ne pas y croire. C'est pas ça l'intérêt. C'est de voir qu'il y a vraiment quelque chose d'ancré au plus profond de nos imaginaires sur ces grandes thématiques. Le trésor du temple, ça fait fantasmer des générations entières. L'alchimie, Nicolas Flamel, l'alchimiste, l'immortel, on n'a rien inventé, il y a eu ça avant nous. Le mythe d'un groupe de gens, de frères, de membres d'une secte qui veulent peut-être trouver un secret perdu, ça existait bien avant nous, ça existera après. Bref, on travaille sur ce matériau. Mais on essaye de discerner toujours le vrai du faux. À la fin des bouquins, on dit toujours, voilà, ça c'est vrai, ça c'est faux. Et on ne fait pas prendre des vessies maçonniques pour des lanternes spirituelles. On essaye.
Alors, je crois aussi qu'il intervient dans le monde maçonnique, enfin dans le monde profane, avec des références maçonniques et des contacts maçonniques, dans un but aussi de démystification. Parce qu'on aurait toujours tendance à penser qu'un commissaire de police maçonnique, c'est un type qui s'installe dans un bureau, sort son agenda électronique, regarde les frères qui sont en position de l'aider, prend le coup de téléphone et en trouve coup de cuillère à peau, tout est réglé. Vous savez, quand on est franc-maçon, en principe, on a plus de problèmes.
Je ne sais pas
si vous avez des problèmes, mais si vous en aviez, ça se règle différemment.
Ce n'est pas les flics qui font ça, c'est les magistrats, non ?
Ah non. Les magistrats, non, c'est des gens avec qui on a des ennuis, les magistrats, c'est des gens qui fouillent, c'est pas des gens bien, vous savez, vous devriez être au courant de ça. Et là, nous, on essaie de montrer quand même quelqu'un qui, effectivement, est obligé de monter son enquête et se rend compte au fur et à mesure que la franc-maçonnerie n'est pas forcément un apport, un appui, une aide, mais peut, dans certains secteurs, être au contraire un frein ou carrément tomber sur des situations où les frères sont... en position défavorable, n'y voyez aucune référence au renommé frère Jérôme Cahuzac, qui a fait beaucoup pour notre popularité ces derniers temps.
On n'y reviendra pas directement à Cahuzac, mais on reviendra sur certains points justement dans l'évolution de ce que vous faites ces derniers temps, parce qu'on voit apparaître des choses effectivement liées à l'actualité qui peuvent avoir des résonances avec tout ça. Lionel, là encore, comme le disait Cédric, l'aventure, elle n'est pas seulement dans la confrontation au réel et aux événements matériels tels qu'on peut les connaître nous tous au quotidien. C'est qu'il y a un moment, il y a aussi l'irruption de la magie, de personnages qui possèdent une puissance assez phénoménale et qui vont d'un seul coup, en tout cas dans le premier volume, nous apparaître alors de manière encore assez floue. Hein. On va les cerner petit à petit dans les différents volumes de la trilogie, mais on se pose quand même beaucoup de questions dans ce premier tome sur mais qui sont ces gens ?
J'aime beaucoup ce que disait Eric Giacometti, Jacques Raven sur l'ésotérisme. L'ésotérisme par nature, c'est ce qui est caché. Autrefois, il y avait les enseignements ésotériques qu'on ne voyait pas, qui étaient réservés aux initiés, et les enseignements exotériques qui étaient faits à l'extérieur du temple grec, par exemple, et qui étaient dispensés à tout le monde. Donc, moi, à la base, dans cette série, je me suis posé la question fréquemment. C'est pas toujours le cas, mais moi, j'ai ressenti une légère frustration en lisant des fois du thriller ésotérique, c'est que finalement l'ésotérisme il est là, mais il n'occupe pas une part si importante dans le récit. Je suis tout à fait d'accord avec le fait que c'est un réservoir de mythes et de figures qui est aussi vieux que l'humanité
et qui peut vite tourner au délire
et qui peut vite, ouais, tout à fait. Mais moi je regrettais un peu que cet ésotérisme, souvent dans beaucoup de bouquins, finalement on pourrait parler de plans d'armes nucléaires ou de secrets d'État. Ça serait pas forcément plus dérangeant. Donc moi j'ai voulu m'amuser à me dire, bon bah, et si cet ésotérisme finalement était protégé, était caché, etc., parce qu'il marche pour de vrai, que effectivement amusons-nous un instant à imaginer que les divers écrits parlant de prodiges divers et variés dans toutes les traditions, et ben bah, ouais mon pote, c'est parce que ça marche. Donc
nous sommes tous potentiellement mages, sauf qu'on le sait pas.
C'est en tout cas un des présupposés et c'est pour ça que pour moi c'est du thriller, mais c'est aussi de la fantasy, puisque finalement c'est du thriller ésotérique où l'ésotérisme marche, donc il y a de la magie qui fait partie intégrante du monde, donc c'est aussi de la fantasy urbaine.
Cédric, là encore les aventures, c'est évidemment des affaires criminelles, mais nous lecteurs on découvre bien vite que les criminels auxquels doit se frotter Vauvert ou dans deux autres, le personnage d'Eva Svarta, c'est pas tout à fait des criminels comme on en croise peut-être habituellement, qu'il y a autre chose derrière. C'était une nécessité justement de recourir au surnaturel par rapport justement à ce qu'on disait sur l'aventure. L'aventure ne peut pas être totalement réaliste.
Ah si, absolument. Non, c'est juste mon parti pris personnel. En fait, quand on écrit, j'ai l'impression qu'on raconte surtout ce qu'on aimerait lire. Et j'ai grandi en regardant des films d'horreur, en lisant des romans d'aventure. Ça a commencé par Belle et Bob Moran quand j'étais ado. Et quelque part, aujourd'hui, je mélange toutes ces influences pour inventer mon propre monde. Et le fait de placer des éléments de surnaturel dans mes aventures n'a jamais été un but en soi. C'est juste que quand j'imagine des histoires et quand j'essaye de représenter le monde tel que je le perçois ou tel que je l'imagine, et également quand j'essaye de représenter des émotions humaines ou des situations de conflit ou des références, pourquoi pas bibliques ou autres, les éléments de folklore et de surnaturel s'immiscent de la manière la plus naturelle qui soit dans l'histoire, donc je les utilise. Mais c'est absolument pas un but ou le fait que mes méchants, entre guillemets, soient souvent d'origine magique et surnaturelle, ça ne sera pas forcément tout le temps le cas. Et d'ailleurs, dans le prochain, apparaître le personnage du méchant est bassement humain.
Et
le surnaturel n'est pas chez lui, en fait.
D'ailleurs, la tension, justement, ce qui fait aussi le sel de l'aventure, c'est donc tout ce qui peut nous créer de l'émotion, y compris la peur ou l'inquiétude, souvent ne naît pas tout de suite automatiquement du surnaturel. Je pense, par exemple, il y a certaines scènes dans De fièvre et de sang, ou dans le dernier, où Vauvert doit se rendre dans des endroits C'est les endroits eux-mêmes, déjà, ils filent la chair de poule.
Oui, il y a une âme dans les lieux qui baisse. Après, ce sont tous les outils du romancier pour générer ces fameuses situations un peu excitantes qui vont sortir le lecteur de son quotidien. Donc, si on amène un personnage dans un lieu isolé, avec un climat particulier, avec une manière d'orienter l'essence du personnage très particulière, il y a une angoisse qui va naître naturellement. Et c'est ce que moi, je recherche à ces moments-là. Et je joue justement beaucoup avec le décor, avec les lieux, mais comme au cinéma on le fait d'ailleurs souvent quoi. Il suffit de mettre une musique, un plan. Et puis il faut pas oublier que quand on raconte une histoire, c'est un jeu aussi avec le lecteur qui est permanent. Et on lui montre à chaque fois quelque chose de précis. On lui montre ce qu'on veut lui montrer, comme on le fait au cinéma avec une caméra. Voilà, c'est jamais anodin la manière dont un auteur raconte quelque chose, parce qu'on veut faire vivre une émotion particulière. Oui. D'une manière particulière
si,
à chaque fois.
Si l'hôtel de Psychose, c'est un magnifique 4 étoiles.
Par exemple.
ça marche moins. vous parliez de Jérôme Cahuzac. Il y a une évolution.
Non.
Vous parliez vous deux de Jérôme Cahuzac. Il y a une évolution. Il y a une évolution dans les deux derniers volumes qui est l'apparition de la haute finance dans les deux. Quelque chose qui n'était pas forcément présent dans les précédents volumes, mais même si à chaque fois il y a toujours un lien fort avec une certaine actualité, on va dire, là pourtant il y a cet aspect-là qui revient à la fois dans le 7e Templier et dans le Temple Noir. Et en particulier, je trouve dans le 7e Templier, avec un parallèle incroyable que vous faites entre deux événements séparés, je vais encore donner un symbole maçonnique par 7 siècles.
Monsieur est expert.
Bah, monsieur a lu un peu.
Non, en fait, c'est pas un hasard. Alors, sur cette partie financière, moi, il se trouve que mon métier, jusqu'à très peu de temps, j'étais chef de service économie au quotidien Le Parisien aujourd'hui en France. Donc, moi, mon quotidien, c'était de lire, de commander, de relire des papiers sur la dette, les dettes publiques, les entreprises et particulièrement les agences de notation, puisqu'à un moment donné vous avez dû entendre parler du pouvoir phénoménal des agences de notation, et ça c'est arrivé dans les médias depuis ce qu'on appelle la crise. Bon. Et je m'étais toujours dit, mais en fait pour un personnage de méchant, à chaque fois il faut essayer de trouver, de se casser la tête. Vous ne pouvez pas à chaque fois remettre des personnages de méchants qui seraient les Blofeld, vous savez, de James Bond. Donc moi, ce qui m'intéresse souvent dans les bouquins, c'est pas tant le héros que le méchant. Le salopard, pour moi, c'est quelque chose de fascinant, et je reconnais souvent un bon bouquin quand je me souviens du salopard. Voilà. Donc là, l'idée, c'était de dire, et si on prenait dans un thriller ésotérique, on vous parle de Templiers, un salopard qui soit le patron d'une prestigieuse agence de notation, c'est-à-dire quelqu'un qui ait vraiment le pouvoir, pas un premier ministre, pas un président révocable selon les époques, non, vraiment quelqu'un qui a le pouvoir de faire basculer le destin d'une nation. Et tout simplement, j'en ai parlé à Jacques, je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien que pour le 7e Templier et le Temple Noir, on ait un Anglais, un Lord Anglais, qui soit patron d'une agence de notation et qui voudrait acquérir un pouvoir qui soit supérieur au sien, qui est déjà considérable. Voilà pourquoi, à un moment donné, on décrit un peu ce milieu-là. Donc, ce que j'aime beaucoup, ce sont les croisements. Trouver un patron d'agence de notation dans du thriller ésotérique, ça ne va pas forcément de soi. Mais ça vient aussi, ce que disait Sir Cédric, c'est-à-dire qu'on écrit ce qu'on aime lire. Donc, on aime bien être surpris et on se dit, ah bah tiens, puisque nous, ça nous a amusé à le faire, on va voir si les lecteurs, ça peut marcher. Alors après, effectivement, on ne peut pas aller plus loin parce qu'à un moment donné, on ne veut pas se mettre les francs-maçons à dos non plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils sont partout et on n'a pas envie, par exemple, qu'ils nous bloquent la distribution des livres. On n'a pas envie qu'ils nous boycottent. Enfin voilà, donc ça c'est le travail de Jacques, d'assurer quand même le lion.
Dan Brown sort de ce corps.
Non, je crois qu'il y a deux choses que vous avez compris, c'est que Jean-Marc Ayrault ne sera pas le prochain héros de notre roman, hein, pas de Premier ministre, hein, c'est pas bankable, ça ne marche pas. Mais je pense que ce qui est intéressant dans le choix du personnage, effectivement, d'un directeur d'agence de notation, indépendamment effectivement de sa connexion avec l'actualité, c'est le fait que cette personnalité qui a déjà un pouvoir intense, ce pouvoir ne lui suffit plus. Et ce qu'on essaye de montrer, c'est que malheureusement, dans la quête ésotérique, il y a derrière une quête de puissance. Et que cette puissance est toujours infinie. Si quelqu'un découvrait le Graal demain, eh bien, vous verriez un nouveau mythe ressurgir qui dépasserait celui du Graal, et ainsi de suite. Et l'image d'une personnalité britannique, rationnelle, inscrit dans la finance, dans le chiffre, dans le nombre, qui à un certain moment se dit « mais je détiens un certain nombre de manettes clés, je peux les bouger, je peux ruiner un État »,
Mais ça ne me suffit pas, il me faut quelque chose de mythique. Ça veut dire que la puissance, la quête de la puissance est à jamais, jamais infinie. Et ça, pour nous tous écrivains, j'allais dire que c'est une malédiction pour tout le monde, mais c'est une bénédiction pour les écrivains, parce que le salopard, pour parler comme Eric, ou le mal, s'incarnera toujours plus. Il est sans fin. En revanche, le bon franc-maçon aimant le peuple, lui, est malheureusement très limité.
Ce qui est fascinant, c'est que ça vient se greffer sur, justement, tout l'imaginaire qui peut tourner autour de la maçonnerie. C'est-à-dire que dans le 7e Templier, où en plus, il faut quand même reconnaître qu'en plus, vous avez beaucoup de chance, parce que ce que vous racontez dans le 7e Templier, ça s'est quasiment avéré par la suite.
Non, on n'a pas beaucoup de chance, on est initié.
Parce que, disons-le, c'est quand même,
on a la lumière, nous.
C'est quand même l'histoire d'une crise financière qui touche le Vatican.
Oui, alors là, c'est pareil aussi. Il y avait eu des, avant l'écriture, il y avait eu des articles qui ont été écrits, des enquêtes sur la zone d'ombre du Vatican, cette zone grise financière où on a une banque d'investissement qui, effectivement, ne se comporte pas de façon très catholique. Donc, on s'est servi de ce matériau. Après, non, juste simplement, là, on a mal joué, c'est que dans ce bouquin-là, dans le 7e Templier, le pape était assassiné, il y avait un attentat, alors qu'on n'aurait jamais pensé qu'il puisse démissionner. Comme quoi, la réalité est parfois supérieure à la fiction. Mais en revanche, il faut faire juste attention, je précise, en revanche, on ne donne pas dans le conspirationnisme. C'est là notre seule limite. C'est-à-dire qu'on joue avec ces matériaux, mais à un moment donné, on ne va pas plus loin et on essaie de le démolir. Par exemple, dans le Temple Noir, à un moment donné, il y a tout un passage, on voit des blogs conspirationnistes qui jouent un rôle dans l'intrigue. Alors là, on est allé chercher ce qui expliquait et à la fin, on démonte tout ça. Parce qu'on fait gaffe quand même, l'ésotérisme, oui, le conspirationnisme, non. Et je dis toujours, le conspirationnisme, c'est l'excroissance tumorale de l'ésotérisme. C'est très facile d'y tomber. Et c'est très facile en tant qu'auteur de faire croire aux gens, attendez, ce que vous lisez dans nos bouquins, c'est vrai. Donc, on veut être clair là-dessus. Après, on mise sur, le bon sens des lecteurs.
Mais la bouc émissarisation du maçon, elle est quand même assez présente aussi. Est-ce que c'est un symbole aussi d'un temps de crise ?
On a toujours besoin de bons boucs émissaires. Mais regardez, le bouc émissaire, il peut s'incarner sur plein de choses. On peut susciter... Regardez, par exemple, je prends ici. Vous avez tous une particularité qui est bizarre. Regardez bien ces gens-là. Le premier, regardez, sa coupe de cheveux. Objectivement... Il pourrait s'en passer. Donc, il y a une volonté cachée d'avoir cette coupe de cheveux. Il y a quelque chose derrière. C'est pas clair. Ce monsieur qui, lui, l'opposé est chauve. Regardez bien sa main gauche. Regardez ce qu'il porte. Bon, étonnant. Il y a un détail, ça cadre pas. Ce monsieur. Regardez bien la chaîne, là, ici. Le badge et la chaîne. Il y a quelque chose. Non, mais si tu l'as laissé comme ça, c'est, tu voulais nous passer un chien. Et regardez ce monsieur qui a l'air normal. Regardez bien sa main gauche, lui aussi. Tu peux montrer ta main gauche ? Voilà. Et regardez bien moi, j'ai un pantalon vert. Je suis le seul ici. Donc, regardez bien de quoi se nourrit le conspirant. On peut tout dire et n'importe quoi.
Je vais regarder dans mon placard.
Je vais quand même expliquer le sens profond de cette diatribe infinie. C'est que quand il est arrivé, il s'est vraiment aperçu qu'il était le seul crétin à avoir un pantalon vert. Et il s'est dit, là, c'est totalement insupportable. Il va falloir que je mouille les autres. Et là, vous avez tous pris... Certains plus que d'autres, mais ça dépend de leur système capillaire. Bon, mais toi, tu vois, t'es pas... Ah !
Ça va venir, ça va venir. Ça
c'est
va
une
venir.
Affaire de quelques mois. Mais Jérôme Cahuzac faisait dans le capillaire et je peux t'avoir des tarifs très intéressants. Le frère Jérôme cherche du travail. Si certains d'entre vous ont quelques petits problèmes post-crâniens ou occipital...
Il fait encore dans le cardiaque ou pas du tout ?
Il fait plus dans le cardiaque. Et maintenant, là, il repique le rare cheveu qui lui reste. Non, oui, c'est quoi la question déjà ?
Sur la bouc émissarisation des francs-maçons.
Ben, c'est une bouc émissarisation qui a toujours existé et qui avait disparu. Elle a existé au XIXe siècle. Bon, très classiquement, vous connaissez le complot judéo-maçonnique qui a fait ses beaux jours jusqu'à 1945. Et après 1945, on s'est quand même aperçu que les loges avaient été fermées, que les archives avaient été pillées, que les temples eux-mêmes avaient été pillés, que les frères avaient été arrêtés, déportés, fusillés pour un certain nombre. On a peut-être compris qu'effectivement, le bouc émissariat pouvait tourner de façon très négative. Mais ce qui est assez paradoxal, c'est qu'effectivement, depuis les années 90, on voit réapparaître, et en particulier dans les médias, le fait que les francs-maçons seraient non pas les responsables de la crise, mais des profiteurs, en quelque sorte, de la crise. Maintenant, moi, j'aimerais attirer juste votre attention sur une simple corrélation, mais il y a un grand média qui a fait son titrage sur où se cachent les francs-maçons dans les médias. Honnêtement, le titre est passé comme une lettre à la poste. Il n'y a eu aucun problème. Vous prenez un titre et un journal de 1936 qui s'appelle « Je suis partout », qui est devenu un journal collaborationniste, ultra collaborationniste.
Les titres en 1938, c'était « Où se cachent les Juifs dans la presse ?» Bon, ben, le résultat, vous le connaissez. Donc là, le bouc émissaire, il faut faire très attention, parce qu'en particulier dans des périodes troublées comme les nôtres, où il y a un manque de repères absolu, à un certain moment, il est facile de trouver quelques boucs émissaires. Oui.
Donc ça veut dire que ce n'est pas étonnant de voir vendredi les tenants de la manifestation pour tous se retrouver devant la porte du Grand Orient
Mais on est assez étonné de surcroît parce que les francs-maçons sur les manifestations en faveur du mariage gay ont été présents, mais très franchement, noyés dans la masse des gens favorables au mariage gay, et qu'on n'a pas fait un prosélytisme énorme sur ces questions, même si effectivement les loges, et en particulier une loge qui s'appelle Cambacérès, a travaillé très longtemps sur cette question-là. Mais ça laisse penser qu'effectivement, il y a un problème aujourd'hui qui est clair, c'est-à-dire que quand vous dites une vérité, vous avez automatiquement aujourd'hui un nombre incalculable de gens qui ne disent pas « c'est faux », qui vous disent « on ne nous dit pas la vérité totale ». Et donc c'est sur la partie transitoire, la partie vague, sur lesquelles les gens se font un certain nombre de fils, un certain nombre de représentations. Et bien sûr, les francs-maçons font partie des personnalités qui sont censées prévoir le monde. Vous savez, il y a une anecdote que je racontais il y a peu. Ah bah oui, c'est vrai. Mais il y a une anecdote que
j'ai une super question pour Lionel.
Il y a une anecdote que je raconterai plus tard.
Lionel, je pense que tu vas forcément rebondir sur ce qu'a dit Eric tout à l'heure, sur la quête de pouvoir et même de ce qui va au-delà du pouvoir. Tout simplement déjà parce que le troisième tome de Léviathan s'appelle Le Pouvoir, donc ça tombe bien. Et qu'il y a vraiment justement cette quête-là, hein, sans trop en dire, parce qu'il faut faire attention à ce qu'on raconte, mais on est vraiment dans ce qu'a dit Eric. Hein.
Bah, oui, c'est tout le corpus des mythes, puis qui sont certains passés dans l'ésotérisme ou qui ont donné naissance, etc. Enfin, tout ça est extrêmement complexe, mais c'est effectivement un terreau phénoménal. Les trois bouquins, enfin, je me suis fondé sur. Il existe autant de grilles de lecture de tout le corpus initiatique, d'où, quelle que soit son origine, il existe autant de grilles de lecture que de mouvements. Bon, c'est intéressant à étudier. Moi, je me suis fondé sur une opposition qui remonte à. Si ma mémoire est bonne, 5000 ans avant Jésus-Christ, qu'on trouve dans le Rig Veda. Et qui a réémergé en France au XIXe siècle à peu près, qui est un truc tout simple, c'est l'opposition entre la voix de la main gauche et la voix de la main droite. Et qui dit tout simplement, la voix de la main droite postule que le monde a un ordre et que, je résume très vite, hein, ne me... donc le monde a un ordre et la mission de l'homme, plus ou moins, c'est d'y trouver sa place. Souvent, cet ordre est de nature divine, mais pas forcément. Et puis, il y a la voix de la main gauche. Qui consiste à dire que l'homme peut être l'architecte de son propre destin. Et Michael Peterson, mon gré mal gré, va devoir se confronter à des forces qui sont très destructrices dans sa vie. Et il est entouré de gens qui, pour le coup, n'ont absolument aucune morale, aucune éthique, et qui sont totalement dans la recherche de pouvoir. Et comme le présupposé de l'histoire et de l'univers, c'est que derrière tout ça, il y a un fond magique réel et qui est sans limite, et bah, il va y avoir également un pouvoir qui va être sans limite. Et ce pauvre Michael Peterson va se trouver face à des gens qui sont des initiés et qui ont un pouvoir, pour certains, qui est absolument terrifiant. Mais justement, comme on revient au roman d'aventure, et bah, ça fait d'autant plus une aventure que j'espère intéressante, puisque... pour revenir sur la question du roman d'aventure, ce qui est intéressant, c'est de prendre un personnage avec ses forces, ses faiblesses, quelqu'un d'humain, puisque bon, c'est quand même plus intéressant de parler d'humain. Je pense que littérature, c'est aussi nous parler les uns aux autres d'humanité. Et puis de voir comment est-ce que quelqu'un qui n'est peut-être pas forcément un aventurier, un héros de premier plan, va trouver les ressources de lutter face à l'adversité et face à tout le tombereau d'ennui qui va lui tomber dessus. Et pour revenir à ce que vous disiez sur la conspiration, c'est vrai que c'est très marrant. Moi, je viens d'un fond un peu plus scientifique, d'un fond scientifique. Et quand on est confronté des fois à des gens qui prêchent par exemple le créationnisme et ce genre de choses, et que on a la conspiration des scientifiques qui veulent vous dire que l'évolution c'est une conspiration pour appuyer le pouvoir des scientifiques qui veulent décider de la vie à votre place. Et quand on essaie d'arriver avec des arguments posés, eh ben la réaction qu'on a parfois, c'est ah Ouais, vous avez vu comme ça s'enchaîne bien. Vous avez vu comme ils sont forts. À partir de là, bon, pour discuter, c'est mal barré.
Cédric, il est moins question d'un pouvoir temporel dans tes romans, mais il est quand même aussi parfois question de pouvoir, ou en tout cas d'accession à des choses. Je pense à Deux Fièvres et Deux Sangs.
Dans tous.
Où il y a une quête d'immortalité quasiment. Hein.
Dans absolument tous, parce que c'est un mythe qui est, enfin, c'est une idée et un concept humain de relation humaine qui est aussi vieux que l'humanité. On essaye tous d'augmenter son propre pouvoir et c'est un fantasme. À chaque fois, quoi que l'on ait, on a toujours envie d'avoir plus. Et véritablement, dans tous mes livres, je pense à ce jour, il y a cette thématique-là, quelque part, d'un personnage qui a ouvert des portes, qui désire accroître son pouvoir au-delà, ou sa vie, et qu'est-ce qu'on serait tous prêts à faire aussi? Quel sacrifice on serait prêt à consentir pour accentuer ce pouvoir, pour découvrir de nouvelles choses?
C'est le mythe de Faust. Hein.
Oui, entre autres.
Et tout ça, justement, là aussi, ça provoque des accidents, on va dire, d'une vie normale, calme, posée.
Forcément, de là naît l'aventure. Ça peut être exploité de manière différente d'un livre à l'autre. Je pense au Premier Sang, par exemple, où j'ai conçu, comme je disais, comme une quête initiatique, où les deux flics vont découvrir quasiment un par chapitre une série d'explications de choses qui sont produites 20 ans auparavant et qui va les ramener finalement à leur propre passé. Et au cœur de ça, il y a toujours l'envie humaine, je pense, de jouer avec le feu. Et en général, on se brûle. Ça marche pendant un certain temps jusqu'à ce que les conséquences de nos actes nous dévastent et finissent par avoir des conséquences dramatiques sur éventuellement notre descendance. Je pense que c'est l'histoire de l'humanité, quoi. On fait des choses sans penser aux conséquences. Et cette quête de pouvoir arrive à des chamboulements dramatiques, hein, tout le temps.
Y compris
sans céder aux thèses conspirationnistes. Hein. Non,
j'espère pas.
Mais du coup, du point de vue purement divertissant, narratif, c'est toujours sympathique de recourir à ces angoisses, à cette paranoïa humaine. Parce que dans le monde autour de nous, il y a toujours des choses qu'on ne contrôle pas. Donc, pour revenir à cette quête de pouvoir et de besoin de contrôle qu'a l'être humain, notre vie n'est pas forcément à l'image de ce qu'on aimerait avoir. Et on cherche toujours un bouc émissaire pour se dire, bon, le monde va mal, c'est la faute à qui? Est-ce que dans l'ombre, il n'y aurait pas des forces, des puissances, des gens qui ont un agenda, qui décident de tout ça et on nous le cache?
Mais d'ailleurs,
j'y crois pas, mais à utiliser, c'est bien.
Dans le jeu de l'ombre, Malko Swan, il est en quête d'une immortalité via la célébrité. On n'est pas forcément dans une quête, on va dire, de prolongation physique, mais il est vraiment dans l'optique d'être immortel par son art, par sa personnalité, son comportement.
C'est encore un tout petit peu différent dans le jeu de l'ombre, qui met en scène en fait un musicien totalement imbu de lui-même. Là, ce que j'avais envie de faire, c'était plutôt de présenter un personnage assez détestable, avec un nom, enfin, tout son univers tourne autour de lui. Il a tous les traits, tous les défauts typiquement masculins qu'un homme peut avoir, d'avoir envie de coucher avec chaque femme qu'il rencontre pour la jeter le lendemain, pour avoir toujours ce plaisir renouvelé, toujours cette puissance renouvelée, effectivement. Mais le succès, il l'a. En fait, le roman débute quand des choses terribles lui arrivent. Il ne sait pas pourquoi et il se rend compte petit à petit à quel point il a été un salaud sur tous les domaines et que même ses propres amis, en fait, il s'est jamais réellement intéressé à eux. Donc la quête du pouvoir, elle n'est pas réellement dans ce roman-là. C'est plutôt une histoire de vengeance, justement, mais liée à ce pouvoir qu'avait quelqu'un et la jalousie que ça peut susciter chez ses proches.
On a parlé jusqu'à présent de romans d'aventure très contemporains qui vont jusque dans le surnaturel. Mais moi, ce que j'ai bien aimé dans vos récents romans, et même dans ceux qui avaient précédé d'ailleurs Éric Jacometti et Jacques Ravenne, c'est le travail sur l'histoire aussi et sur le roman historique. Il y a souvent des romans où on a trois pages en début de livre avec un prologue où ça se passe en 1242 à Constantinople. Et puis ensuite, ça disparaît. Il y a 500 pages qui sont dans le monde contemporain aujourd'hui. Or, vous, non seulement ça commence dans ces lointains passés, mais on a une vraie histoire et on a un vrai récit d'aventure parallèle qui s'instaure. C'est pas juste pour faire joli et donner un argument, il y a vraiment quelque chose. C'est venu comment ce choix et cette envie justement de tisser ces récits parallèles, dont un récit vraiment purement historique?
Je crois que c'est venu d'un constat, c'était le besoin qu'on a ressenti à un certain moment de bien montrer que le présent s'expliquait ou se justifiait par le passé. Et peut-être pas par le passé le plus connu, et peut-être pas par ce qu'on apprend à l'école de l'histoire. C'est-à-dire, ce qu'on apprend, c'est toujours, ça a été dit plusieurs fois par des gens, c'est la vérité des vainqueurs. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le mensonge que les vaincus vont recréer pour exister. Et si vous prenez, par exemple, dans certains de nos bouquins, les Templiers, ce sont quand même des vaincus de l'histoire qui ont disparu définitivement en 1307-1314. En ces temps, ils ont été balayés. Et aujourd'hui, qui connaît encore les rois de France de cette époque, si ce n'est à travers les Templiers? Et moi, la revanche des vaincus par le mythe, c'est quelque chose que je voulais mettre fondamentalement en perspective. Et en plus, notre héros est un franc-maçon, c'est-à-dire qu'il s'inscrit dans une société initiatique qui n'a de cesse d'essayer, dans ses légendes d'origine, de remonter au plus loin possible. Ce qui est très amusant quand vous regardez les textes maçonniques du 8e siècle, c'est que vous allez avoir à Bordeaux une petite loge qui va dire « Écoutez, moi je pense qu'on descend des Égyptiens. » Bon, très bien, ça se répand, ils font quelques affiliés à Toulouse, et là Montpellier, un mec dit « Non, non, mais avant les Égyptiens, les Mésopotamiens. » Et hop, il se fait un petit papier. On finit par avoir comme ça des généalogies fabuleuses qui, moi, m'intéressent beaucoup. Et donc, à un certain moment, on s'est posé la question, effectivement, cette quête du passé pour expliquer le présent, comment la mettre en scène? Et c'est vrai que le vecteur de la franc-maçonnerie était parfait. Et puis faire ressurgir, effectivement, cette parole des vaincus de l'histoire qui, moi, m'apparaît aujourd'hui comme beaucoup plus prégnante que celle des vainqueurs.
Mais est-ce que le risque, c'était pas de réécrire les rois maudits?
On n'en a pas le talent. Non, mais c'est vrai, c'est... En toute humilité, chacun son écriture. Non, en fait, c'était une...
Oui, il y avait 12 tomes, comme dit Jacques Rabelais.
Voilà, en plus.
Et 12 écrivains.
Mais en fait, c'est né pour le troisième opus, Frères de sang. Les deux premiers, on avait fait des flashbacks, effectivement. Et pour le troisième, il y avait le personnage central de l'intrigue historique, qui était Nicolas Flamel. Et ce personnage-là a une importance assez particulière dans l'ésotérisme. C'est la figure emblématique de l'alchimiste. Et il était intéressant d'aller plus loin qu'effectivement, comme tu le dis, de ce prologue. Moi, j'ai toujours été frustré dans beaucoup de thrillers ésotériques. Ça commence à une certaine époque et hop, mon expédition passe ailleurs. Bon, là, pour le coup, on s'est dit, on va tenter le coup, on va faire deux récits parallèles, deux lignes de narration parallèles, un chapitre historique, un chapitre contemporain. Et du coup, les lecteurs ont apprécié. Et effectivement, depuis cet opus-là, on le fait systématiquement. Ça nous permet d'aller beaucoup plus loin, à la fois, je dirais, dans la description. Et puis Jacques, puisque c'est Jacques qui, pour une fois, il est modeste, ce qui est rare pour un maçon, mais pour une fois, c'est lui qui s'occupe de la partie historique. Il y a, mine de rien, il y a beaucoup de travail derrière. Ça n'a pas l'air comme ça, on les voit caracoler. Mais en fait, moi, je suis assez fasciné. Par exemple, moi, objectivement, je suis incapable de fournir la qualité de travail que Jacques produit dans la partie historique.
Oui, parce qu'il y a, par exemple, dans le 7e Templier, il y a le frère Guilhem qui est apothicaire.
Oui, voilà.
Ça demande quand même beaucoup de choses. Il n'est pas que apothicaire, en plus, il est fasciné par l'anatomie humaine. Donc, voilà. Il faut se reporter aux connaissances qu'on avait de l'anatomie humaine au 14e siècle.
Vous savez que les francs-maçons tuent des gens dans leur tenue. Donc, moi, ça fait 15 ans que je suis initié, ça me fait un cadavre par an. J'ai largement le temps d'étudier l'anatomie sans passer par la fac. Hein. C'est des bonnes.
Vous les mangez après, bien sûr.
Non, très rarement, très très rarement. Non. On les revend parce qu'on aime le bénéfice. Vous voyez, c'est quand même plus sérieux.
Effectivement, oui. C'est après, voilà, il faut avoir cette écriture et le fait de s'imprégner. Jacques, là, particulièrement, je dis toujours, un jour, fais un thriller historique pur et dur, parce que vraiment, il a ce don-là. Et pour ça, je pense qu'il faut avoir aussi un esprit un peu qui ne soit pas tellement contemporain. Je connais Jacques depuis des années. C'est un personnage aussi qui a des valeurs d'une certaine époque. Il a des valeurs. Par contre, le droit de cuissage, pour lui, c'est une valeur. Il regrette qu'il n'y ait plus le droit de cuissage. Et je vois des réactions de femmes ici. Mais oui, c'est vrai, Jacques a ce côté médiéval. Par exemple, les scènes de torture de l'Inquisition, c'est lui. Et des fois,
quand c'est vrai qu'il y en a certaines papiers, qui sont assez gratinées.
Ah, mais non, mais attendez, vous avez la partie publiée il y a juste avant. Juste avant, c'est insoutenable, c'est immonde. Ça découpe, ça charcute. Donc voilà, j'ai ce côté de régulation, qui lui fait le plus grand bien. Et je vais m'arrêter là.
Plus sérieusement, il faut quand même respecter les codes du thriller. Or, un thriller, ça va vite. Et au XIVe siècle, ça met des obstacles supplémentaires, non ?
Oui, mais alors en revanche, on va rebondir sur ce que va dire notre co-auteur. C'est vrai que ça va plus lentement, oui. Par exemple, pour un messager pour partir de Paris jusqu'à Avignon, résidence du pape, il faut 6 jours. Ça, c'est sûr que par rapport au SMS local, c'est un petit peu délicat. Et c'est difficile. Mais en revanche, vous avez une liberté de violence que vous n'avez pas dans le monde contemporain. Dans le monde contemporain, le pillage, le viol, la torture, le meurtre, l'incendie, le bûcher... Que nanny.
Oui, parce que faut dire en plus que le frère.
Que nanny.
Faut dire que le frère Guilhem, en plus, il arrondit ses fins de mois en trafiquant des cadavres pour faire croire qu'ils ont été assassinés.
Oui, c'est d'ailleurs, ça fait. De toute façon, vous savez, c'était une époque où le chômage était endémique aussi. Hein, et donc, il fallait que la pluricité des petits boulots, des petits CDI à contrat durée terminée. Bon, Pôle emploi, Philippe Lebel lui propose un boulot, il accepte. Hein, c'est, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse. Mais c'est quand même une époque où, très curieusement, on a deux institutions qui sont la royauté et qui sont l'Église. Qui l'un impose une autorité vraiment assez marquée et l'autre une morale et dans lequel la liberté de violence n'a jamais été aussi importante et aussi grande. Et ce qui est encore plus paradoxal et qui, moi, me fascine terriblement, c'est que quand vous naissez psychopathe au Moyen-Âge, vous avez des voies de sortie officielles. Vous pouvez devenir inquisiteur. C'est quand même assez fabuleux. Aujourd'hui, quand vous êtes psychopathe, à part tuer des gens et finir en taule, vous n'avez aucun débouché dans la société française. C'est complètement bouché. Bon. À l'époque médiévale, non mais très sérieusement, il y a une violence institutionnelle à l'époque médiévale qui aujourd'hui nous choque, mais qui à l'époque était parfaitement admise. Et je pense que ça délaisse sa méditation quand même pour les temps actuels.
Lionel, justement, puisqu'on parle de la violence, il se trouve que dans la trilogie, il y a des scènes de combat absolument incroyables, en particulier dans les deux derniers tomes, mais qui sont extrêmement chorégraphiés et qui finalement sont très graphiques, sont très visuels. C'est une question que tu te poses aussi, parce que finalement, c'est quand même des gens qui sont en train de s'entretuer. On est bien d'accord.
Moi, je suis un grand fan je suis très cinématographique comme garçon. J'ai vraiment une imagination assez visuelle. Lecteur aussi, mais j'ai eu de... Moi, je suis un grand fan notamment du cinéma d'art martiaux japonais, du film de sabre. Donc tous ces ralentis et ces effets très graphiques, c'est des choses qui me parlent beaucoup. Je pense aussi que dans le thriller, moi, pour la petite histoire, à la base, quand j'ai fourni le manuscrit à l'éditeur, il m'a dit c'est un thriller. Moi, à la base, j'étais pas parti pour écrire un thriller. J'étais parti pour écrire l'histoire qui me plaisait avec. Donc moi, il se trouve que j'aime les histoires qui avancent et qui pulsent assez. Donc l'éditeur m'a dit bon bah ça s'inscrit dans le thriller. Ok. Mais sur sur la question de la violence, je pense que quand on lit du thriller et même du roman d'aventure de façon générale, cette part cette part de violence, cette part d'esthétique et cette part de frisson fait totalement partie de ce qu'on espère dans un récit d'aventure et qui va nous faire vibrer. Donc on est à nouveau dans le domaine du jeu et on revient à un des principes de base de la littérature qui est que c'est un. On sait que c'est pas vrai, mais on veut jouer et faire en sorte que c'est vrai parce que ça va être un voyage, ça va être génial, ça va être cool. Et bon, c'est violent, mais c'est le même principe que quand on est au cinéma, regarder un film d'horreur, on veut pas voir, mais quand même on regarde à travers les droits parce que quand même c'est cool. Donc voilà, moi j'ai une grande attirance effectivement pour ce côté-là, cette forme d'esthétisme de la violence et de l'art du sabre, puisque beaucoup des combats se passent à l'épée. Elle est rituelle, puisque c'est des mages. Et oui, moi, j'ai une grande attirance pour ce côté-là. À côté, je suis un garçon très calme. Hein. J'aime les chats et j'arrose mes plantes tous les jours.
Mais par exemple, chez Cédric, alors c'est peut-être aussi graphique, mais c'est beaucoup moins ragoûtant quand même, en général, chez toi, la violence. Hein. C'est...
Je sais pas. Moi, j'ai l'impression de l'esthétiser autant que je peux. Mais non.
Quand on rentre dans une ferme qui est une espèce de charnier innommable où on se dit heureusement que dans le livre il n'y a pas l'odeur en plus parce que sinon c'est même pas la peine, je vais pas plus loin.
Oui, mais c'est un parti pris esthétique de description. Non, mais vraiment, enfin, moi je revendique le fait de raconter des histoires de divertissement, d'essayer de placer le plaisir du lecteur au cœur de tout ce que je fais. Et en fait, je peux que surenchérir à tout ce qui vient d'être dit, mais on sait que c'est pas la réalité. Et en plus, j'irais même plus loin, pour moi, l'art au sens large, qui ne serait que la représentation fidèle de la réalité, ça n'aurait mais aucun sens, parce que sinon ça voudrait dire que la réalité est plus intéressante que l'art, qui n'est qu'une copie. Donc l'art doit dépasser ça, et on a tous des goûts différents, ce qui donne différents genres. Et moi, je suis fasciné par ces représentations de violence qui peuvent devenir très graphiques, et j'en use et j'en abuse, mais dans ce sens vraiment là d'art, on sait que c'est pas la réalité, on se permet des outrances. Parce qu'il y a un côté jouissif là-dedans, il y a des références diverses et variées, et souvent cinématographiques effectivement, puisque ben, l'audiovisuel a développé ce fléchage, ce langage, ce rythme, ces tableaux en fait. Et aujourd'hui, toutes les histoires qu'on écrit, à la différence de ce qui a pu être écrit durant les siècles passés, à l'époque romanesque, hein, où il n'y avait que le roman comme modèle, hein, aujourd'hui on a le cinéma, on a le rythme, d'internet, de la communication à très haute vitesse maintenant. On a la bande dessinée, on a plein d'art, de médiums différents qui ont été inventés, et ça modifie totalement la manière qu'on a aujourd'hui de raconter une histoire et de jouer avec cette violence et de montrer les choses. C'est quelque chose d'assez récent et quelque chose qui moi me rend totalement euphorique et qui fait que j'ai un plaisir monumental à inventer ces horreurs et à les mettre en scène, toujours pour le plaisir du lecteur. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, on cachait tout. Il y avait l'indicible. C'était Tolkien, on ne voit jamais Sauron. Le mal n'était pas représentable. Lovecraft, c'était tellement horrible qu'il n'y a pas de description, mais les personnages deviennent fous et se suicident. Mais nous, on n'a pas vu les monstres qui sont évoqués. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant dans tout ce qui est ce nouveau genre de thriller, c'est qu'on peut montrer des choses et jouer avec ce rythme effréné qui fait accélérer le pouls. Et c'est ce plaisir du train fantôme, quoi. Voilà, c'est ça, d'être dans un train fantôme ou un grand 8, tout en sachant qu'on est en sécurité parce qu'on n'est pas dans des situations décrites. On est à l'abri dans notre lit, notre canapé, en train de lire et de sortir totalement de la réalité quotidienne.
Et ben voilà, j'espère que ces quatre auteurs auront su, au cours de cette heure, vous prendre par la main, comme on le disait au début, vous emmener à la découverte de leurs univers assez variés, assez différents. Vous allez pouvoir choisir peut-être ces romans d'aventure qui vous correspondent le mieux ou que vous avez le plus envie de découvrir, et puis laissez-vous porter. Mais en tout cas, là, vous avez trois magnifiques exemples de romans qui devraient normalement vous faire passer quelques bonnes heures de lecture avec pas mal d'émotions diverses et variées. Je vous invite à retrouver nos auteurs sous la bulle du livre pour aller continuer la discussion si vous le souhaitez, et puis évidemment pour des dédicaces, des achats de livres et autres. Merci beaucoup.